Marie-Paule Bell, vous avez publié un livre, Comme si tu étais toujours là, aux éditions Plon, un hommage à, je dirais, un grand amour. Françoise Malé-Joris, écrivaine, parolière de l'Académie Goncourt, excusez du peu également. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, ce livre que vous publiez, c'est presque un livre posthume de Françoise Malé-Joris, parce que c'est vous la faites parler à travers des écrits, des lettres.
Oui, je voulais montrer sa véritable personnalité qui était très différente de ce qu'elle montrait dans les interviews officielles, en tant que vice-présidente de l'Académie Goncourt, écrivain de renom, etc. Et dans la vie, c'était quelqu'un de complètement différent, très drôle, très passionné, très décalé par rapport à la réalité. Donc, je voulais lui rendre hommage et en même temps redonner envie de la lire parce que je trouve qu'elle n'a pas la place qu'elle mérite dans la littérature française. Elle a été considérée à l'époque comme une écrivaine, on dit aujourd'hui, bon, féministe des années 70, écrivaine de best-seller, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'était une femme très importante, je pense, dans le mouvement féministe, certainement, mais littéraire aussi. Et donc, voilà, je voulais un peu essayer de montrer qui elle était vraiment. Et puis, de par ses lettres et les écrits de chansons, montrer comment la création naît du vécu. Par rapport à notre propre histoire, l'histoire d'un amour exceptionnel, montrer à partir des événements que nous avons vécus dans notre vie, comment sont nées les chansons qu'elle m'a écrites.
Il faut se rappeler que Françoise Malé-Joris est entrée en littérature à 19 ans avec Le Rempart des Béguines.
Oui, même plus tôt, parce qu'elle avait écrit un recueil de poèmes encore plus jeune. Oui, d'ailleurs, disons, Le Rempart des Béguines est le premier livre qui a été vraiment connu et qui a fait un scandale à sa sortie, parce qu'il traitait d'un sujet un peu tabou à l'époque. Et donc, elle est entrée dans la littérature par un scandale, en fait, oui.
Je pense aussi à un autre titre qu'elle écrit plus tard, comme La Maison de Papier, où elle, à travers sa plume, plutôt un style vigoureux, hein, avec beaucoup d'humour, où elle tord un peu le cou à l'hypocrisie et aux faux-semblants.
Oui, elle a toujours été dans cette rébellion un peu des carcan bourgeois de l'éducation bourgeoise. Et La Maison de Papier est un exemple type de la liberté de l'éducation en dehors des règles habituelles.
Qu'est-ce qui vous a rapproché, vous et elle, sur le plan littéraire et sur le plan carrière? Vous aviez deux vies tout à fait différentes, elle plutôt une solitaire dans les livres, dans l'écriture, et vous plutôt tournée vers la scène et peut-être le paraître.
Oui, bien sûr, mais je pense que c'est cette opposition qui a été complémentaire en fait pour l'une et l'autre. Elle était enfermée dans sa solitude par l'écriture, donc elle avait besoin de communiquer, peut-être de créer avec un rebondissement et un partage de l'autre. Donc, je pense que c'est ça que nous nous sommes apportés l'une et l'autre. Et puis, au début, c'est pas la littérature qui nous a réunis, c'est plutôt la musique, parce que le premier jour où je l'ai rencontrée, on s'est chanté des chansons. Elle m'a dit qu'elle jouait de la guitare, donc moi aussi à ce moment-là. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt les chansons et la création et l'amour des vieilles chansons françaises qui nous a réunis au départ. Après, ça a été la création, bien sûr. C'est le travail, tout le travail que nous avons fait ensemble.
J'ai l'impression que Françoise Malé-Joris, que moi je ne connaissais qu'à travers ses écrits, et que je ne connais qu'à travers ses écrits et quelques interviews qu'elle avait données à la télé ou à la radio, tour, semblait une femme très sérieuse, posée, etc. Et finalement, à travers ses livres, on voit qu'elle avait beaucoup d'humour et qu'elle était drôle. Donc il y avait deux Françoise Malégeorris.
Oui, c'est-à-dire que j'y en avais qu'une, mais elle montrait plus une facette que l'autre à la télévision, dans les médias, et le reste était réservé à ceux qui la connaissaient bien. Je veux dire, Serge Lama en faisant partie, d'ailleurs il en parle très bien dans la préface de mon livre, il nous a très bien connus ensemble, et c'est cette drôlerie, cette explosion d'un regard tellement acéré, quelquefois caricatural sur les personnes que nous côtoyons ou sur des situations. Je veux dire, souvent, quand je l'avais au téléphone, elle me racontait un fait tout à fait banal, que je sais pas, je dis n'importe quoi, qu'elle allait acheter une baguette chez le boulanger, et ça devenait une histoire extraordinaire, un roman formidable. Elle avait un sens de la description et du récit. C'était une conteuse dans la vie, et on était suspendu à ses lèvres sans arrêt. Dès qu'elle parlait, il y avait un silence autour d'elle parce qu'on buvait ses paroles.
Marie-Paule Bell, si vous deviez conseiller à celles et ceux qui ne connaissent pas les écrits de Françoise Malégeorris, vous conseilleriez de commencer par quoi? Par Le Rempart des Béguines, par exemple, ou par un autre, peut-être moins connu?
Si je devais choisir un livre connu, je commencerais par La Maison de Papier, qui montre tout à fait la façon dont elle vivait et la façon dont nous avons vécu, parce que je suis arrivée dans la maison qu'elle décrit, mais dans cette ambiance-là, je veux dire. Donc, je conseillerais ça, puis je conseillerais des livres plus introspectifs, comme L'être à moi-même, ou un petit recueil que j'aime beaucoup, qui s'appelle J'aurais voulu jouer de l'accordéon, où elle parle de la solitude de l'écrivain, justement, et qu'elle oppose à quelqu'un qui est sur la scène, dans la lumière, et cette envie de recevoir l'approbation des autres directement et instantanément, comme le monsieur qui joue de l'accordéon et tout de suite qui voit les sourires et les gens danser autour de lui et qui est applaudi à la fin du morceau.
Elle a écrit combien de chansons, ou vous avez écrit combien de chansons ensemble?
Oh, on n'a jamais compté. En fait, on me pose souvent cette question, mais je sais pas. Disons plus de 250, puisqu'on a sorti une vingtaine d'albums. Sur chaque album, il y avait à peu près à l'époque 12 titres. Et puis il y a énormément de chansons qui n'ont pas été enregistrées, qui n'ont été créées que pour la scène ou simplement pour se faire plaisir. Entre autres, même tous les airs que nous avons écrits pour l'opéra bouffe qui n'a jamais été joué. Donc on a écrit beaucoup beaucoup de choses. J'ai des tas de chemises à la maison où j'ai encore des inédites, Françoise.
Vous avez fait cette carrière de chanteuse, plutôt vous, pétillante, truculente, alors qu'au départ, vous aviez quand même une vie qui n'était pas tracée dans ce domaine. Vous aviez été, bon, d'abord des études vers la médecine, hein, un environnement médical familial, vers la, je crois que c'est la psychologie, hein, que vous avez. Et puis, on vous a qualifié au départ de chanteuse intello. Comment vous êtes passé de ce côté intello, justement, avec la fameuse parisienne, à cette chanteuse fantaisiste, si on peut, avec le sens noble du mot fantaisiste?
Je pense que j'ai eu cette étiquette intello de chanteuse de chansons à texte ou rive gauche à l'époque, on disait, parce qu'on sortait du cabaret, parce que justement j'avais une parolière qui était à l'Académie Goncourt, qui était un écrivain et qui écrivait des paroles très littéraires. Donc je pense que c'est à cause de cela que j'ai été étiquetée, puisque en France on aime beaucoup les étiquettes de cette façon. Mais après, à partir de Wolfgang et moi, qui était sur le premier album, il y a eu cette notion, grâce à Philippe Bouvard, qui m'a qui m'a invité dans une émission qui était très écoutée à l'époque, qui s'appelait Samedi Soir. J'ai explosé médiatiquement à ce moment-là et dans une couleur fantaisiste avec Wolfgang et moi, Nosferatu et des choses comme ça. Et c'est La Parisienne qui a confirmé ça parce que La Parisienne est sortie en pleine période du discours où on entendait Gloria Gaynor toute la journée sur les FM. Et donc, bon, moi, j'arrivais en sautillant sur mon tabouret et c'était un peu différent. Et puis, je racontais l'histoire d'une provinciale qui monte à Paris et qui est un peu étonnée du climat dans lequel elle plonge. Donc, tout le monde se reconnaissait un peu, les Parisiens et puis les provinciaux. Donc, je pense qu'après, étant donné que l'impact des chansons humoristiques est plus évident et plus immédiat, on m'a tout de suite catégorisé dans cette couleur-là, quoi. Donc, après, c'était difficile d'en sortir. Vous savez, les gens, les maisons de disques surtout, aimaient bien et aiment toujours enfoncer le clou si vous sortez tel genre, et je pense que c'est dans tous les domaines artistiques. Si vous sortez quelque chose qui a du succès, on vous demande de refaire la même chose pour en vendre encore plus. Donc moi, c'était pas mon objectif ni celui de Françoise. On écrivait ce qu'on avait envie d'écrire, comme ça venait, et c'est peut-être ça qui a fait qu'on n'a pas eu une carrière très forte parce que justement, on était un peu marginal.
C'est l'école de l'échelle de Jacob, de l'Écluse, tout ça?
Oui, bien sûr, l'Écluse et l'échelle de Jacob et tous les cabarets Rive Gauche étaient une très bonne école parce que les gens venaient pour découvrir des auteurs-compositeurs, des personnalités nouvelles et qui avaient leur univers. Et on ne trichait pas. Si on ne plaisait pas immédiatement, on était rejeté tout de suite. Donc, on devait apprendre à savoir manier une salle, à savoir s'exprimer, à savoir faire sortir les mots, à savoir respirer, à savoir chanter, à développer sa propre personnalité. C'était ça le talent des cabarets de l'époque.
Marie-Paule Bell, on parle évidemment de Françoise Malégeorris à travers ce livre, Comme si tu étais toujours là chez Plon. Il y a une autre rencontre aussi, c'est celle avec Michel Grisolia.
Oui, bien sûr. Celle-là, elle a précédé celle de Françoise, puisque j'ai commencé à écrire des chansons avec Michel Grisolia, qui était un ami d'enfance. On avait 9-10 ans, on a commencé à écrire des chansons ensemble. Et après, quand lui a quitté Nice, on habitait Nice à ce moment-là, il a quitté Nice pour Paris et il a commencé à être journaliste dans des journaux, écrire des piges, et puis il écrivait des romans aussi, et puis après je l'ai présenté à Françoise Malégeorris et on a formé un trio de création très très solide, et Françoise était tout à fait d'une personnalité différente de celle de Michel, mais ils étaient complémentaires aussi et ils ont tout co-signé ensemble sur un accord commun. Et après, Michel Grisolia est devenu un scénariste de renom. Il a travaillé avec les plus grands cinéastes, avec Coppola, avec Téchiné, avec Granier de Fer, vraiment. Il a en même temps écrit des romans policiers, des romans autobiographiques, des scénarios vraiment importants. Et puis il a écrit pour d'autres personnes que moi aussi. Il a écrit pour Régine, il a écrit pour Fabienne Thibault. Il a fait beaucoup de choses.
Marie-Paule Bell, ce livre, c'est un livre, je disais tout à l'heure, c'est votre histoire d'amour avec Françoise Malégeorris. Est-ce que vous pensez qu'à cette époque, dans les années 70, pour vous, vous avez vécu cet amour, j'allais dire au grand jour, sans avoir plus de difficultés ou moins de difficultés que peut-être aujourd'hui, je ne sais pas.
Beaucoup moins de difficultés. Je pense que l'homophobie est grandissante malgré le mariage pour tous et tout ce développement-là. Je trouve que la haine et la violence et l'agressivité envers les homosexuels est beaucoup plus grande. Il n'y a qu'à voir tous les faits divers, tous les jours, la création de tous ces du refuge et de tous ces foyers où les pauvres adolescents viennent se réfugier parce qu'ils sont jetés de leur propre famille que pour une raison, parce qu'ils sont homosexuels. Regardez à l'étranger, dès qu'on franchit les frontières à 2 heures de Paris, on jette les homosexuels du haut des toits des immeubles. Je veux dire, ça c'est vraiment au grand jour maintenant. Dans les pays orientaux, on coupe les têtes ou on tue les homosexuels. Donc, bien sûr que l'homophobie est grandissante, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, parce que, vous savez, j'ai beaucoup hésité à l'écrire, parce que c'est quand même un livre où je raconte des choses assez personnelles. Donc, on a un réflexe de pudeur, on ne peut pas se mettre complètement à nu. Il y a des choses, bien sûr, des lettres et des documents que j'ai gardés pour moi, mais à partir du moment où cette histoire d'amour est exceptionnelle, avec deux êtres qui avaient chacune, en l'occurrence, une personnalité très forte, et à partir du moment où elle m'a écrit des lettres extraordinaires, et où elle m'a écrit des poèmes formidables, où elle a écrit des choses très intenses, je me suis dit, je dois le partager pour montrer que ça existe et pour montrer qu'il faut vivre un amour exceptionnel quand on a la chance de le rencontrer. On ne doit pas se restreindre et complètement se frustrer de cet amour à cause du regard des autres et de l'opinion des autres, et on doit vivre pleinement ce qu'on a à vivre. C'est tout ce que je voulais dire, et simplement essayer d'alléger les souffrances de ceux qui pouvaient vivre ces difficultés dans la différence.
C'est quelque part une partie de votre jardin secret que vous livrez. Je pense aussi au jardin de consacré, enfin, à Françoise Malégeorris à Paris dans le 13e, où on peut aller lire le livre sur un banc, je suppose, dans ce jardin.
Et c'est très joli parce que c'est un jardin un peu sauvage, des plantes différentes. Il y a aussi bien des roses que de la lavande, par exemple. Donc ça me plaît beaucoup, cette idée. Il y a une petite allée avec des pavés. Au milieu des pavés, il y a de l'herbe qui pousse. Il y a un côté vraiment sauvage qui lui aurait beaucoup plu, je pense.
Marie-Paule Belle, donc autre actualité, il y a un album, Mes premières années 1969-1976, chez Marianne Melody, 26 titres, et vous serez, je l'espère, que tout ira bien à ce moment-là, en janvier 2021, à la Nouvelle Ève, où vous rendrez hommage aussi à Françoise Malégeorris, et également en lui dédiant ce spectacle, je pense, et puis en même temps aussi en faisant découvrir bien ses chansons qu'elle a écrites avec vous, et puis d'autres certainement.
Oui, je vais chanter des chansons inédites de Françoise qui seront sur mon prochain album, celui que je suis en train de faire, mais je ne sais pas quand je vais retourner en studio là avec le confinement, mais j'espère le sortir justement pour la fin de l'année, pour qu'il soit là pour la Nouvelle Ève, et il y a des titres donc inédits de Françoise Malégeorris. Il n'y aura que des chansons inédites sur cet album. Et dans mon spectacle, il n'y aura pas que des chansons inédites, parce que les gens viennent écouter des chansons qu'ils ont envie d'entendre et qu'ils connaissent bien. Mais il y aura des chansons inédites, et même une chanson de Serge Lama, complètement inédite et qui sera dans l'album. Et chansons inédites aussi écrites avec Isabelle Maillot, qui reste mon auteur et avec qui je travaille souvent. Donc, ça sera un parcours, si vous voulez, de chansons différentes avec toutes les facettes différentes que j'aime interpréter, aussi bien mélancoliques, nostalgiques, humoristiques et décalées, et avec tous ces petites chansons inédites qui seront un cadeau que je veux faire pour ceux qui se dérangent pour me voir sur scène, parce que nous n'existons, et je le dis à chaque fois, que parce que les gens viennent nous voir sur scène. C'est la véritable création et c'est la véritable authenticité d'un artiste. Il n'y a aucune tricherie, aucun effet de studio, aucune technique qui peut rattraper l'expression de l'artiste sur scène.
Alors Pascal Sevran disait de vous, j'ai revu ça dans son dictionnaire de la chanson française, en parlant donc de Marie-Paul Belle, « Prenez Mireille et Barbara, ajoutez-y un zeste d'Yvette Guilbert et vous aurez une Marie-Paul Belle sortie de derrière les pianos ». Je trouve que ça vous va bien.
C'est très joli, je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il avait écrit ça. Ça me fait plaisir, c'est dommage qu'il soit pas là pour que je puisse le remercier.
Je vois que la Parisienne donc est toujours à la mode et libre et sans compromis.
Elle est encore plus à la mode que lorsqu'elle est sortie en 76, parce que regardez, la psychanalyse s'est énormément développée. Tout le monde a au moins été consulté un psy une fois dans sa vie. Le Vélib, le développement du vélo, et encore plus maintenant avec le confinement, est un moyen de locomotion que tout le monde utilise. L'écologie est tellement développée. Les gens qui fuient Paris et les grandes villes pour se retrouver à la campagne aussi. Le sexe, n'en parlons pas avec MeToo. Je veux dire, tout ce dont parle la chanson a été développé énormément. Françoise et Michel, et surtout Françoise, étaient de grands visionnaires. Et dans d'autres chansons aussi, j'ai pu m'en rendre compte aujourd'hui, parce que pendant le confinement, j'ai enregistré tous les jours une chanson en piano-voix à la maison. Et je peux vous dire qu'il y a des textes que je n'ai jamais chantés sur scène et qui se sont révélés aujourd'hui, mais tout à fait d'actualité.
Merci beaucoup, Marie-Paul Belle. Donc je rappelle le titre de ce livre, « Comme si tu étais toujours là » aux éditions Plon, avec une préface de Serge Lama. Votre album « Mes premières années 1969-1976 » chez Marianne Mélodie. Et puis, bien sûr, donc à la Nouvelle Ève en janvier 2021. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci à vous. Et puis, bon vent.
Merci à vous de m'avoir invité dans votre émission.